Deuxième mardi du mois, 19h, Clip Radio. Just what is it that you want to do? We want to be free. Do what you want to do. Sur Radio Panique. And we want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. Clip Radio.
Salut tout le monde. Donc,
il n'est pas passé.
Ouais. Donc Miguel fait son speech habituel.
Ouais, bonjour à tous les potos, les petits. Voilà, Clip Radio, on est là pour une heure plus ou moins, parce que bon, on craque. C'est un truc genre projet participatif, d'une collaboration, etc. etc.
Voilà.
Ouais,
si la comprends. Technique, elle foire un peu, c'est la faute...
au technicien.
C'est la faute au technicien.
Ouais.
Alors, excuse-nous Lola.
Qui est toute rouge.
On te balance.
Alors c'est spécial, mais aujourd'hui, deux anniversaires. Ben Mario, bon anniversaire.
Merci.
C'était vendredi. Tommy,
bon anniversaire.
Bon anniversaire. Happy to you. Hein.
Donc...
ça va. Aujourd'hui,
Iker
et Iker, voilà. C'est. Bah, on va d'abord peut-être faire un tour de table.
Voilà.
Pour qui veut se présenter ou pas.
Enfin, présenter bah, j'espère même. Que tout le monde veut bien se présenter.
Ça va.
Mais... qui commence? Bon, Mélissa.
Moi, je vais commencer. Donc, moi, c'est Mélissa et je suis travailleuse sociale à l'ASBL Dune et j'ai fait mon mémoire sur l'équivalence des soins de santé en prison.
Et donc, on passe à la suivante.
Ok, et moi c'est Vanessa, je suis psychologue à l'ASBL iCare.
Et moi c'est Mélodie, je suis aussi psychologue et je travaille à iCare à la prison de Saint-Gilles.
Stéphane, je suis un petit peu passé à Saint-Gilles à une époque.
Voilà.
En fait, Stéphane va être un témoin.
Voilà.
Donc voilà, ce qui est sympa. Et on le remercie déjà d'ailleurs. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, iCare.
Bah, on va commencer avec Mélissa, parce qu'elle, elle a fait un... Ouais, désolé, mais c'était... Hein,
c'était prévu.
C'était prévu. Elle a fait un mémoire sur l'équivalence des soins de santé au milieu carcéral. Tu peux nous
tout
en parler
fait.
Un peu?
Oui, donc dans le cadre de mon master en criminologie, j'ai fait mon mémoire sur l'équivalence des soins de santé en matière d'usage de drogue dans le milieu carcéral. Et donc l'idée de mon mémoire, ça a été de répondre à deux questions en particulier. Et la première, c'était d'abord de savoir dans quelle mesure ce principe d'équivalence des soins de santé n'est effectivement pas respecté, sachant que l'État belge a été à plusieurs reprises condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir respecté ce principe. Et donc moi, je voulais un petit peu savoir dans quelle mesure est-ce que ce principe n'était effectivement pas respecté. Et la deuxième question à laquelle je me suis intéressée, c'était du coup de savoir en quoi et pourquoi cette équivalence n'était pas respectée, quels étaient les freins, s'il y en avait institutionnels, structurels ou personnels. Voilà.
Et pour toi, c'est bon, de tout ce que tu as dit là, bon, maintenant c'est un peu pourquoi ça t'intéresse, mais à quel niveau ça bloque en Belgique pour ta part?
Au niveau des soins?
Ouais.
Mais déjà, il faut que je précise quand même que moi, je me suis intéressée qu'à une prison en particulier que je vais pas citer. Mais donc, du coup,
pourquoi?
Parce que je trouve pas ça nécessaire et que
ça leur ferait du bien.
Bah, pas toutes les prisons sont pareilles en même temps.
Non, non.
Voilà.
Ce qui est important de préciser de toute façon, c'est qu'effectivement, il y a des grosses différences entre, selon moi, entre les maisons d'arrêt et les maisons de peine. Et là, pour le coup, moi, je vais parler d'une maison d'arrêt. Donc, du coup, c'est déjà beaucoup plus généralisable aux maisons d'arrêt qu'aux maisons de peine. Et donc, effectivement, ça bloque à plusieurs niveaux. Moi, je me suis intéressée à trois aspects en particulier, qui sont, de manière générale, la réduction des risques et, plus précisément, les traitements de substitution et le dépistage et le traitement de l'hépatite C. Et donc, effectivement, ça bloque très fort à ce niveau-là. Effectivement, déjà, la réduction des risques, a priori, il n'y en a pas du tout. Si on considère que la réduction des risques, c'est uniquement...
Il y a plutôt une augmentation des risques.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça en plus. Mais du coup, la réduction des risques, si on la considère uniquement comme étant de l'échange de matériel de consommation stérile, alors effectivement, il n'y a rien du tout, parce qu'il n'y a aucun programme d'échange de seringues, par exemple, qui est mis en place. Si on considère que la réduction des risques, c'est plus de la prévention et du traitement, alors là, on peut imaginer qu'il y a déjà plus de choses qui sont mises en place, par exemple, au niveau des traitements de substitution. Dans le cadre de mon mémoire, effectivement, tout le monde s'est plus ou moins accordé à dire que c'était la seule chose qui était positive dans la prison concernant les usagers de drogue, même s'il y a certaines réserves aussi à ce niveau-là. Et alors, au niveau du dépistage et du traitement de l'hépatite C, en fait, il n'y a pas du tout de dépistage automatique, enfin automatisé en tout cas. Donc, un usager de drogue qui rentre en prison dans la maison d'arrêt que j'ai analysée ne va pas automatiquement se faire dépister. Or, on sait que et l'incarcération et la consommation de drogue sont deux facteurs à risque de développer une hépatite C.
Merci.
Voilà. Ça, tout, c'est un peu
je fais un gros condensé, ouais.
Mais voilà. On va passer à Iker aussi.
Ouais, du
voir
coup.
Quel est le point de vue par rapport à ce qu'il vient de se dire.
Bah déjà, Iker, c'est quoi?
Ok. Je vais un peu présenter Iker. Voilà, donc Iker a été créée en novembre 2015 et elle est basée à Bruxelles, mais la SPL est active non seulement dans les prisons de Bruxelles, donc Forêt, Berkendal et Saint-Gilles, mais aussi en Wallonie, donc Marchand Famen, désolé, de Lantin, Mons et Jamiou. Voilà, donc le but principal de iCare, c'est de contribuer activement à l'amélioration de la prise en charge globale, que ce soit médicale, psychosociale, des détenus, et assurer la continuité des soins pendant l'incarcération et lors du transfert ou la libération. Et en plus, à contribuer au développement de la promotion de la santé en milieu carcéral. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je parle un peu de notre équipe.
Bah oui, vous êtes combien?
Ok, donc on est 17 dans notre équipe, et Iker est divisé, donc il y a la première ligne et la deuxième ligne. Donc la première ligne, c'est nous, on travaille plus sur le terrain. Et la deuxième ligne, c'est ils font plus plaidoyer. Donc nous sommes 17 travailleurs de différentes fonctions. On est plusieurs infirmiers, infirmières, psychologues, éducateurs, éducatrices spécialisées. Voilà, oui. Chargés de mission.
Et donc le plaidoyer, c'est vraiment se nourrir de l'expérience de terrain de la première ligne pour faire remonter des constats, pour chercher d'améliorer les choses. Voilà, au niveau politique.
Il n'y a pas qu'au niveau politique, parce que bon, moi je travaille avec une femme qui était en prison, qui devait prendre un traitement de méthadone. Et en fait, elle a fait un sevrage
obligatoire.
Obligatoire, parce qu'on ne l'a même pas soignée, quoi. Elle n'a pas eu de soins. Après, elle a changé de prison. Donc en fait, elle s'est complètement défait de ses besoins de méthadone. Et après, dans la deuxième prison, on lui a quand même donné de la méthadone. Donc en fait, elle a remis accro. Donc je comprends pas trop.
Oui, c'est compliqué, hein, par rapport au traitement substitution. Il y a souvent une réduction très 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 rapide des traitements de substitution, surtout de la méthadone et parfois la suboxone. Mais c'est très compliqué, effectivement.
Mais c'est quoi? Il n'y a pas assez de docteurs? Il n'y a pas assez? Je sais pas. Comment ça se fait que, parce que bon, de faire un sevrage direct obligatoire.
Moi, ils m'ont fait descendre en 2000, ils m'ont fait descendre de 100 mg à zéro en un mois et demi. Donc j'ai mis 3 mois à faire des nuits normales, quoi.
Mais parce que tu le voulais ou bien parce que ça...
Ah non, parce que le psychiatre, il s'est fait virer à l'époque, Ravenscott.
Okay.
On peut donner son nom, il y a eu une façon, il n'y a pas de problème, c'est ça. C'est une réalité, c'est factuel. J'avais pas le choix, quoi. C'était comme ça, pas autrement, quoi. C'est tout. Et bon, ça a un peu changé, je pense. Mais de toute façon, il y a toujours un problème. C'est qu'il n'y a pas vraiment de secret médical. Parce que les gens qui vont chercher leur traitement de substitution, toute la prison voit qu'ils se baladent, qu'ils vont à l'infirmerie pour chercher leur méta. Donc, il n'y a aucun secret médical. Donc, toute la prison est au courant. Toute la prison est au courant que vous prenez la méta, quoi.
Et quoi, ça fait chier les autres? Enfin,
c'est très mal vu en prison. Enfin, en tout cas, dans certaines prisons, ça dépend des prisons. En tout cas, par exemple, à Saint-Gilles, où j'ai passé un certain temps, il n'y a pas trop de toxicomanie par rapport à Lantin je sais pas si c'était d'autres prisons. Apparemment, c'est pas conseillé.
C'est pas ce que j'ai à dire.
Ok. J'ai perdu le fil. Donc, Donc à Saint-Gilles, les toxicomanes sont mal vus, il n'y a pas de secret médical. Et la dernière fois que j'y étais, j'y étais très peu de temps, j'ai croisé des gens d'Aiker, mais on m'a fait passer au Suboxone, alors que j'étais à la Méta, quoi. Et il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Mais à la limite, ça, c'était pas plus mal, parce qu'on le recevait en cellule. Donc ça, c'était beaucoup plus discret. Mais j'ai un ami qui a été il y a 2 mois, et ça a nouveau changé, apparemment, quoi. Donc c'est nouveau, pas très discret, quoi.
Ouais. Ce qui est compliqué avec la Suboxone, c'est que les personnes peuvent le ramener en cellule. Et donc souvent, il y a un marché noir.
Même un marché noir, il y en a de toute façon.
Méthadone, c'est ça l'avantage.
Il y a encore moyen, même avec la métalliquide, il y a encore moyen de... Il y a toujours moyen de moyenner. Enfin, les gars qui veulent vraiment moyenner, qui ont passé beaucoup de temps, ils trouvent toujours des solutions, quoi. Je vais pas les développer.
On va rester dans tout ce qui est la légalité, de voir un peu comment ça se passe, peut-être. Ouais. Nous.
Comment ça se passe exactement? Je suis en prison, j'ai besoin d'un traitement. On vous contacte comment?
Au préalable, tu dois... Peut-être ça a changé récemment, mais auparavant, il fallait être suivi par un médecin. Donc si tu n'avais pas de traitement de substitution, en principe, dehors, on t'en donnait pas, quoi. Même que tu es complètement malade, ils n'en avaient rien à foutre, quoi.
Il n'y a personne, donc moi je parle, elle avait un traitement, hein, elle est rentrée...
Oui, c'est là un traitement que le médecin faxe. Qu'elle a un traitement, ils adaptent le traitement comme ils veulent, quoi. Hein, et puis ils font descendre... Ils suivent pas toujours les indications de ton médecin, quoi.
Ils en font qu'à leur tête, quoi.
Ça dépend des médecins, oui, mais clairement, quoi.
Je pense aussi que c'est quand même justifié par des raisons sécuritaires, je pense, notamment parce que, Mélodie, tu l'évoquais, le fait qu'on ait peur qu'il y ait du trafic de méthadone, par exemple. Mais il y a aussi, fait de... C'est facile de faire des overdoses ou des choses comme ça, et je pense... Moi, c'est ce que les gens que j'ai pu interviewer dans le cadre de mon mémoire me disaient. C'est effectivement, on n'ose pas, enfin, ils n'osent pas prescrire des trop grosses quantités de méthadone parce qu'ils ont peur, des risques d'overdose et que ça leur tombe dessus après, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est pour se protéger eux qu'il y a une dégressive hyper rapide, effectivement, et voire un changement de molécule, parfois même sans le consentement du patient, quoi.
Parce que avec le Suboxone, il y a un antagoniste, hein. Par exemple, dans le Suboxone. Oui. Donc voilà, en principe, il ne devrait pas y avoir d'accident. Donc.
Mais je crois que c'est pour ça que du coup, ils préfèrent le Suboxone. Parfois, ils changent même le...
Mais c'est ce qu'ils m'ont fait.
Ah, oui, fois.
On va peut-être prendre le choses de manière plus générale et pas rester que dans le Sudoxide, l'Aptadone, je ne sais pas comment, hein. On va prendre ça de manière plus générale. On avait posé une question là, comment... quelqu'un qui est en prison arrive à être en contact avec vous. Comment ça se passe, en fait, dans la pratique? J'envoie un texto, ouais. Je sais pas.
un petit billet d'argent.
Je sais pas. Ça.
Donc, il y a plusieurs sources de la demande. Principalement, c'est le service médical, le service psychosocial de la prison, des fois les agents qui s'inquiètent pour une personne ou l'autre. Il y a d'autres personnes détenues qui conseille notre service à une autre personne. Il y a des fois des membres de la famille, qui s'informent et qui nous trouvent sur Internet ou du bouche à oreille. Et quand la personne arrive en prison, en général, elle reçoit une liste des services externes, en général. Mmh. Et donc, donc elle trouve notre nom et un petit descriptif de ce qu'on fait. Et donc, voilà, comme disait Stéphane, à travers un biais de rapport, donc il y a un petit morceau de papier qui est utilisé pour toutes sortes de communications à l'intérieur de la prison, ils peuvent faire appel à nous. Voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois compliqué, surtout pour les personnes qui ne parlent pas forcément la langue. Et qui entrent en prison pour la première fois, qui ne connaissent pas forcément le système et qui sont un peu isolés. Il faut savoir, par exemple, qu'à Saint-Gilles, 50% des personnes incarcérées sont sans papier. Et c'est aussi souvent des jeunes. Donc voilà, ce n'est pas toujours facile, effectivement, d'entrer en contact avec nous. Donc ce qu'on cherche de faire de temps en temps, c'est quand même aller faire un tour des entrants, Donc on va toquer à la porte de la cellule et on se présente. Uh-huh. On voit un peu comme la personne va et voilà.
Donc vous avez vraiment le droit de vous balader en prison. Bah pas vous balader mais...
Oui, on se balade tranquillement.
C'est bien, t'es en prison.
Dans les ailes.
Même toquer à ta porte.
Ben justement, j'étais en train de me demander si vous receviez les personnes...
Pas les
clés, parce que bon, il y a les coins avocats où on peut se voir, mais vous rentrez carrément près des cellules, donc.
Dans les ailes.
Oui.
Ben, je sais pas.
Oui, on rentre, oui. Mm-hmm. Parfois, souvent il n'y a pas vraiment disponibilité de bureau à l'intérieur, donc on va parler avec le détenu depuis le guichet, donc c'est une petite fenêtre. Dans la porte de la prison. Parfois aussi, on arrive à rentrer. Mais ça c'est rarement, en tout cas pour moi, j'ai fait ça rarement. On rentre en cellule, donc on discute avec la personne dans sa cellule même. Et voilà.
Mais ça, c'est compliqué, hein, parce que la plupart des personnes se retrouvent à deux dans la cellule. Donc au niveau du secret professionnel, ouais. c'est pas évident. Ouais, la plupart des fois, c'est dans des bureaux.
Voilà. Pour rebondir sur ce sujet, tu parles de secret professionnel. Quand un médecin vient à ta cellule, t'as le maton qui est à côté, quoi. Le surveillant.
Et donc, il entend tout.
Il entend tout.
Ce qu'il ne peut pas faire.
Donc, il n'y a pas de secret médical. La plupart du temps.
Mais il a le droit de rester là ou...
C'est une réalité, c'est factuel.
Oh, je trouve ça...
C'est comme ça.
Bon, maintenant, c'est peut-être...
c'est presque inhumain, quoi.
C'est par rapport aussi à des aspects de sécurité pour pas que le type saute sur la meuf. Enfin, sur toi.
Ça va, c'est pas des animaux spécialement en prison, tu sais, ça va. Les gens savent se tenir.
J'ai pas dit que les gens étaient des animaux, non plus.
Mais c'est très rare, ce genre de truc, je t'explique. Hein. Bah, moi, je l'ai jamais vécu. J'ai jamais entendu une histoire comme ça, ou peut-être exceptionnellement... Mais non, je ne crois pas avoir entendu d'une histoire comme ça. Quoi.
Bah, vu que le maton est là...
Mais comment je dois m'imaginer ça? Je suis en prison, bon, tu toques à ma porte, après...
Bah, ça, c'est le premier contact. Mm-hmm. Disons qu'ensuite, voilà, si je reviens en prison pour te rencontrer, je vais demander à l'agent pénitentiaire, voilà, est-ce que vous pouvez aller chercher monsieur Mario? Et moi je l'attends dans un bureau, dans un local, et la personne arrive et on fait un entretien dans un local la plupart des fois.
Ok.
Et tu analyses sa réelle demande.
Voilà.
Du genre, ouais. Ça c'est le premier contact, je pense.
Tout à fait. Mmh. Donc l'idée c'est vraiment de centrer le suivi sur la demande de la personne. Typiquement, on s'assure que la personne déjà ait une bonne compréhension du fonctionnement de la prison. Qu'elle ait accès à un minimum d'argent, il y a 15 euros par mois d'argent social, qu'elle ait un minimum de compréhension de sa situation juridique, qu'elle ait contact avec son avocat, qu'elle ait contact avec sa famille. Et après, voilà, on fait une analyse de la demande, et là, on le met en contact avec, par exemple, d'autres services externes ou internes à la prison qui peuvent répondre plus spécifiquement à sa demande.
Alors je me demande, j'ai pas encore de mon suivi, comment ça peut être alors qu'elle est tombée carrément dans l'oubli, quoi, qu'on oublie qu'elle va prendre un traitement, que... Ouais.
Ouais. Mais nous, on cherche beaucoup de faire le pont entre le sujet et sa demande médicale et le service médical. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que Saint-Gilles est extrêmement surpeuplé. Là où il devrait accueillir entre 400 et 450 détenus, là, il y en a plus de 900.
Ah, 900, magnifique.
Donc, voilà.
Ce que je proposerais peut-être, c'est parce que j'ai la gorge sèche, entre autres.
Un petit morceau de musique.
Ouais, tu vois, on ferait une pause et puis on revient sur le sujet.
Ben, les Pixies. Les Pixies. We'll be right back. Bah oui, mais les. Ouais. Voilà.
Bah oui, mais c'est le ministère de la Justice qui donne
les. Donc, on en était où là? Ouais, non, mais t'as vu, c'est... On discute même quand.
Oh. Même quand on n'est pas à l'antenne.
Même quand on n'est pas à l'antenne.
Voilà, on va revenir à la réduction des risques, mais un autre aspect qui est plutôt la. Les actualités, de voir comment ça se passe aussi par rapport, je pense, à l'hépatite, de ouais. Comment ça se passe par rapport à ça, quelqu'un qui, est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'on peut faire des tests en prison, est-ce que, comment mm-hmm. ça se passe?
Ouais, tu peux,
ouais. Oui, effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu, voire pas du tout de dépistage de l'hépatite C, alors qu'a priori ça pourrait être automatisé à partir du moment où une personne rentre en prison ou est restée un certain nombre de temps en prison. On pourrait se dire, mais vu que l'incarcération c'est déjà un facteur de risque, est-ce qu'on ferait pas un dépistage? Et donc ce que les interlocuteurs de ma recherche disaient, c'est qu'effectivement il y a pas de dépistage parce qu'en fait il n'y a pas de traitement. Et pourquoi il n'y a pas de traitement? Parce qu'en fait, le traitement coûte trop cher. Et que ce serait...
Non, en fait, c'est pas la même.
Ce serait la, donc, je crois que la raison un peu officieuse que les personnes avec qui j'ai discuté me disaient, c'était qu'effectivement, c'est trop cher et ce serait de l'argent jeté par les fenêtres que de commencer un traitement avec quelqu'un qui est consommateur de drogue. Parce que de toute façon, en sortant de prison, il va pas suivre son traitement, et du coup ce serait de l'argent jeté par les fenêtres parce qu'on aurait entamé un traitement qui au final ne guérit pas la maladie, quoi.
Un traitement qui dure 3 mois.
Oui, c'est ça. Et on sait que les a priori dans la prison que j'ai analysée, il reste au moins 3 mois.
Ouais.
Et que de toute façon c'est une fausse croyance de croire justement que ces personnes ne seraient pas suffisamment autonomes que pour continuer leur traitement. Ouais. Même à la sortie de la prison, en fait. Et de nouveau, ça fait partie de la stigmatisation des usagers de drogue et de penser qu'en fait, ce sont
des gens irresponsables.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, on fait un petit coucou au réseau hépatite.
Oui, on dit bonjour à Lise et à Pierre.
Oui. Voilà. Avec qui on collabore.
Ok. Bah, nous aussi.
Donc, quel est votre point de vue, Vanessa et Mélodie, par rapport à. Bah, ce qu'on vient de dire.
Et Mélodie.
Mélodie. Ouais, c'est Mélodie. Maladie, c'est. Enfin, ça a révélateur, d'ailleurs. Donc voilà.
Ben oui, je suis d'accord avec ce que Mélissa disait. Hein. C'est très politique comme situation. Il faut savoir que le service médical en prison est financé par la SPF Justice. Mm-hmm. Même si voilà, il y a un passage de compétences qui est en route, mais ça prend un peu de temps. Et donc voilà, je pense que c'est ça la raison. Et en fait, c'est très triste parce que qui paye les conséquences de tout ça, c'est les personnes détenues.
Et comment se passe le contact et on va dire la direction? Ils vous voient de quel œil? D'un mauvais œil, d'un bon œil? Ils savent pas quoi faire de vous?
Ça dépend.
Bien vu, mal vu?
En tout cas, nous, en tant que travailleurs, on n'a pas vraiment ce contact direct avec la direction. C'est plus notre directrice ou coordinateur. Mais. Voilà, en général, ça dépend vraiment des ailes. Si je vais parler un peu des agents, du service médical, du SPS, vraiment, ça dépend de la personne, ça dépend des ailes. On ne peut pas vraiment dire en général si c'est positif ou négatif.
C'est intéressant parce qu'il y a une espèce de paradoxe dans notre travail, dans le sens où... nous, on va avec un esprit de vouloir soutenir les personnes détenues, de vouloir de faire un processus vraiment de soutien, là où on est dans une institution qui est là pour punir. Oui. Voilà, donc il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a aucun moyen que la prison, comme elle est pensée aujourd'hui en Belgique, elle soit rééducative ou qu'elle soit visée à la réinsertion. En tout cas, à travers notre expérience de terrain, on peut dire ça.
Et ils font vraiment tout pour réinsérer les gens?
Ils font rien du tout. Non, ça c'est la réalité. On n'est pas dans des pays scandinaves. Quoi. Ouais. On n'a pas les chiffres que les pays scandinaves ils ont en récidive. Quoi. bien inférieure.
Ben d'ailleurs, Mélodie, c'est ça ?
Vanessa.
Vanessa. Toi, tu peux faire un peu la différence parce que tu as travaillé en prison au Liban.
Mm-hmm. J'ai fait un stage, oui, au Liban.
C'était...
C'est vrai que déjà, les pays, on ne peut pas comparer la capacité des deux pays, mais c'est vrai que la situation au Liban, des prisons au Liban, c'est quand même insalubre. Et même si je ne vais pas dire qu'ici,
c'est
très bien, c'est un hôtel, mais non, mais... C'est vrai que ici, c'est donc l'état des prisons, c'est meilleur qu'au Liban, mais ça reste limite ici. Je trouve qu'il y a énormément de travail qu'il faut faire, que ce soit là ou là-bas. Hein. Donc voilà.
Vous allez aussi aux prisons des femmes. Je me demandais s'il y avait des différences par rapport à justement cette réduction ou quoi, parce que les femmes présentent
d'autres particularités.
Particularités.
Oui, ouais.
Nos collègues, donc nous, moi et Mélodie, donc on travaille uniquement à Saint-Gilles.
Mm-hmm.
On a nos collègues qui travaillent sur un autre projet à Berkendal. Et là, c'est vrai qu'au niveau réduction de risque, je pense qu'il y a des choses qui se font plus qu'à Saint-Gilles.
Ouais. C'est d'autres nombres aussi. Hein, ouais.
Parce que... oui. Moi, la personne, je parle, elle vient de Berkendal. Quoi, ouais. Donc,
c'est une femme.
Ouais, mais elle n'avait rien. Quoi. Elle est vraiment rentrée là-bas et voilà quoi.
Mm. Mmh. En tout cas, on essaye.
Non, mais c'est pas vous.
C'est
hein,
ça, peut-être. C'est... Oui, c'est ça. Oui.
Moi, je crois qu'il y a vraiment un problème au niveau carcéral, au niveau de la direction et tout ça, au niveau des politiques, quoi.
Mmh.
Ouais.
Ah, oui, c'est un
euphémisme. C'est sûr. Oui.
C'est... Parce que par rapport à ce frein politique et tout, il n'y a pas des choses qui sont mises en place. Je dirais, on a des constats avec autant de pourcentage de personnes ayant l'hépatite, avec autant de personnes ayant besoin d'un traitement, des trucs comme ça. Il n'y a pas des comités de concertation qui vont un peu devant le politique et dire eh oh.
Il n'y a personne qui leur tape sur les doigts en disant ouais, là ça cloche, là ça cloche. Mais,
je pense que déjà, tant que les soins en prison seront sous la tutelle du SPF Justice et pas du SPF Santé Publique, a priori, il n'y a rien qui va changer parce que déjà, comme disait Mélodie, les prisons, elles ne sont pas là pour soigner, elles sont là pour punir. Mmh. Et ouais. Ils ne reçoivent pas les moyens, en fait. C'est vraiment l'aspect sécuritaire qui prend le pli sur toutes les dimensions carcérales. Et. Oui, le soin, ça fait pas partie de leur mission. Et donc, du coup, si ça passe sous la tutelle du SPF Santé Publique, là, il y aura des enveloppes pour débloquer des budgets, pour engager du personnel soignant, des éducateurs, des psys qui dépendent pas du SPF Justice, vraiment une approche pluridisciplinaire, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il faut prendre en charge des personnes qui sont consommatrices et détenues. Tant qu'il n'y aura pas tout ça, en fait... Voilà.
Ouais, parce qu'on va pas se voiler la face, il y a l'usage de drogue dans les hôpitaux, dans les prisons. Mais comme on disait tout à l'heure, faire du RDR en prison, c'est accepter, non pas accepter, mais c'est dire que oui, il y a vraiment de l'usage de drogue et je crois que ça, ils sont pas prêts à le faire. Quoi.
Parce que justement, Stéphane, toi, quand tu allais faire une demande. Acquis des droits pour un traitement ou quel que soit. Comment c'était reçu cette demande?
Mais à quel niveau substitution en général, tu veux dire?
Oui, oui. Ça...
Bah, déjà, t'es malade. Comment tu.
Ah, bah, tu attends. T'attends que ton médecin il envoie un fax ou quelque chose. S'il n'y a personne qui envoie de fax, tu attends, quoi. Ils veulent pas, ils bougent pas, même s'ils connaissent ton dossier, hein. Même s'ils ont déjà un dossier, que t'es déjà venu chez eux auparavant, quoi. Ils en ont rien à faire, ils se basent sur le fax du médecin. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai connu, c'était comme ça, quoi. Tant qu'il n'y a pas de fax, donc un gars qui n'a pas de substitution, comme je disais, il ne recevra rien, quoi. Et, ben voilà. Sauf, seul truc que j'ai déjà vu avec les alcooliques qui sont vraiment très loin dedans, quoi. Ils leur donnent un peu de bière, un petit peu au début, quoi. Ouais, mais vraiment quelques-unes, hein, parce qu'ils sont. Parce que sinon, ben, ils pourraient mourir, quoi,
oui,
les
oui.
Gars. Mais ça dure très peu de temps, et puis ils diminuent très vite. Diminuent très vite le truc.
Oui, ouais. Ils font plus vite, quoi. Et comment se passe un suivi après? Donc vous suivez quelqu'un. Est-ce que. Si c'est quelqu'un avec une courte peine. Est-ce que le suivi s'arrête du moment que la personne sort ou est-ce que vous continuez à la suivre?
La particularité d'iCare est qu'on travaille uniquement pendant l'incarcération. Maintenant, ce qu'on cherche de faire, c'est effectivement aider la personne à trouver le service idéal par rapport à sa demande, qu'il puisse le suivre aussi à sa sortie de prison, que ce soit du point de vue social ou psychologique.
Bon, des fois, j'ai quand même l'impression que dès que les gens sortent, ils sont laissés à l'abandon, quoi.
Ben, clairement, oui, mais c'est ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Il y a une chose qu'ils doivent voir, c'est leur contrôleur judiciaire, quoi. Enfin, le...
Oui, mais voilà, mais voilà. Après...
ça, c'est
voilà,
important, quoi.
Moi, je vois des gens, ils sortent des prisons, bah, ils sortent des prisons, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas de CPS.
Ah, ils n'ont rien, mais et ça... Voilà, mais déjà, en prison, quand tu n'as pas d'argent, c'est déjà dur. Alors, quand tu sors de prison et que tu n'as pas d'argent, ça, enfin, ça, ben, il devrait un peu réfléchir, il y aurait peut-être moins de récidive si les gens sortaient, ils avaient un travail, un boulot, enfin, un appart. Oui, oui. Oui, mais bon.
Je pense qu'il y a un problème, c'est au niveau des nombres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 900 détenus à Saint-Gilles, et c'est seulement la préventive. Mmh. Nous, on suit une antenne de personnes. Les services externes n'arrivent pas à suivre. En fait.
Ça aussi, il faudra peut-être arrêter de mettre des gens en prison parce qu'ils ont fui un petit joint ou je sais pas, ils les mettent en prison pour n'importe quoi maintenant.
Donc, ouais.
C'est sûr qu'après, ils sont surpeuplés.
Ouais.
On va se faire une deuxième pause.
T'assois.
Ouais.
Mm-hmm. Ok. Chaud, Diego. Je vois qui chante ça.
Il n'y a plus de chant.
Derrière les barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort.
Donc on est de retour. Putain, je suis encore sur.
Et donc c'était Diego Libre dans sa tête par Johnny, mais aussi France Gall.
Mais... Ouais, parce que Johnny, on est désolé quoi.
Alors on va revenir à l'époque truc. Actuelle.
Ouais, désolé pour le Johnny en fait. Franchement. Waouh. On regresse.
Bah non, c'est une question de goût. Voilà, c'est...
Donc on en était où?
Bah de voir un peu aussi si le Covid a eu des répercussions, que ça soit au niveau du service, au niveau des détenus, de voir un peu ce que ça a engendré, cette histoire de Covid.
Ah, c'est quelque chose, hein.
Ouais. Ah, moi, j'imagine, t'as le Covid, c'est bon.
Moi, je suis tombé, j'ai fait un très peu de temps, j'ai fait 2 mois, en plein début de Covid, quoi. Où tout le monde était complètement parano. Et ils savaient pas comment gérer, quoi. Ils donnaient, je crois qu'ils continuent à donner des masques tous les jours. Ils géraient ça très mal parce que, parce qu'on peut jouer, on peut sortir au préau, on peut sortir en promenade, on peut jouer au foot, et là, on peut enlever le masque. Ce qui est pas très cohérent, quoi. Parce que quand les gars jouent au foot, en général, enfin bon, ils s'expriment, quoi.
Bon, donc, maintenant, te mettre en tôle, en quarantaine, ça a pu arriver.
Donc, alors, ça se passait comment pour vous, les visites?
Oui, voilà. Pour vous, les filles, enfin, Vanessa.
Donc, période de Covid, quand même, vous signalez, plus de visites, plus de linge, enfin, ou après un moment, on a pu commencer à recevoir du linge, quoi.
Ça devait plus.
Ah oui, sûrement.
Mais toi, c'était au début du Covid.
Moi, au début du Covid.
Moi, je veux bien savoir vraiment au milieu vraiment de la pandémie.
Moi, j'aimerais bien que Vanessa et Mélodie disent aussi ce qu'il en est.
Enfin, je veux dire, vous étiez en pleine pandémie plutôt. Oui, ça après quelques mois. Enfin, pardon.
Non, mais... Ah, voilà,
mais effectivement, en fait, donc il y a eu plusieurs. Déjà, la surpopulation en prison, voilà, ça rend pas les choses, ça rend pas les gestes
aisés,
les gestes barrières faciles. Donc déjà en prison, mais oui, il y a eu suspension de tout ce qui est visite, activité, donc tout ça aussi fait beaucoup d'effets. Négatif sur la santé mentale et psychologique des détenus. Donc c'était un peu une double peine en fait.
Clairement. Voilà. Oui. Ah moi ça a été très long les 2 mois.
Mmh. Ouais, j'imagine.
Et qui dit distanciation physique dit isolement social.
Bah ouais. Donc, non mais j'essaie d'imaginer comment ça doit faire quoi. Ils sont combien dans cellule?
Deux, trois, certains. Souvent ils se permettent plus de choses avec les sans-papiers quoi. Ça c'est une réalité. Je sais pas si ça a changé, mais en tout cas pendant très longtemps c'était le cas. Ils les mettaient des fois à 3, parfois à 4 par cellule quoi. Ça c'est une réalité quoi.
Mm-hmm. C'est peut-être aussi un truc à dénoncer quoi.
Oui, ils le savent. Mais tu sais, c'était quoi la réelle question que tu voulais dire, toi?
Non, c'est vraiment la réalité du Covid, c'est tout.
Oui, souvent, quand il y avait... Ils ont dû faire face à la quarantaine. Donc, il y avait des détenus qui étaient isolés, qui n'avaient même pas accès aux douches, par exemple, parfois.
Ah ouais, 3 semaines, sans douche.
Oui, les cas contacts.
Les cas contacts.
C'est isolé pendant des fois 2 semaines. Voilà.
Il ne fallait pas être cas contact pour ne pas avoir de douche. Hein. Pendant un moment.
Ouais, et pas de visite, du coup, aussi.
Pas de visite pendant plusieurs mois.
Pas de visite des proches et tout.
Oui, pendant très longtemps. Ils ont mis en place des visites virtuelles.
C'est une blague.
Ce qui est... De façon assez paradoxale, en fait, pour certaines personnes, était un avantage. Pour les personnes, par exemple, qui avaient leur famille très loin.
Ça ouvrait... Du coup, ils avaient... Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc, ça avait quand même quelques avantages.
Ouais. Mmh.
Donc, ils ont peut-être découvert qu'ils pourraient laisser des visites virtuelles à des personnes qui sont éloignées.
Ouais, tout à fait. Mmh.
Est-ce que ça va rester ou c'est...
Non. Ouais, voilà.
Donc, en fait, ils n'ont rien compris, quoi.
Mais ils veulent pas trop se fatiguer. Hein. Ils veulent pas trop... il ne faut pas trop déroger à la routine. Quoi. Ouais.
Et c'était encore plus compliqué quand au Covid s'ajoutaient des grèves du personnel pénitentiaire. Donc,
C'était la totale.
Ouais, la totale.
Ouais.
Et en même temps, il n'y avait pas de suivi psychologique qui était mis en place spécifiquement pour tenir en considération ces conditions de détention qui, comme disait Vanessa, sont vraiment une double peine.
Encore une fois, laissé à l'abandon. Quoi.
En général, les demandes d'aide qui vous sont demandées sont plutôt de quel ordre? Psychologique, physique ou...
Ça dépend les vraiment, deux. mais de tout. Je pense c'est plus au niveau médical, psychologique aussi, et social aussi. Je veux dire en fait, oui, les trois. Donc, oui. Oui.
Mais Vanessa et moi, on travaille sur 2 projets. Donc le premier projet, c'est le projet Drugs Lab. Donc c'est vraiment pour un public de personnes consommatrices qui se retrouvent en prison. Et le deuxième, c'est un projet plus récent qui est parti vraiment du constat du fait qu'il y a énormément de personnes sans papier en prison et qui n'ont pas accès à la langue et qui n'ont pas accès à vraiment une compréhension du fonctionnement et qui sont très isolées. Et donc, je dirais que les demandes sont spécifiques au type de public. Donc, au niveau du premier projet Drugs Lab, c'est beaucoup de demandes au niveau médical, au niveau de leur traitement substitution, au niveau du logement, au niveau social. Lorsque dans le projet Humani, c'est vraiment des demandes très pratico-pratiques. Comment ça marche la prison, des personnes qui sont vraiment indigentes, qui ne savent pas comment avoir accès à l'argent social, ces fameux 15 euros.
Il y a une demande qui doit se faire ou quoi ?
Je peux faire une...
Oui, tout à fait, c'est une demande qui doit se faire. Donc si la personne n'est pas au courant qu'elle a droit à ça, en fait elle ne le reçoit pas.
Mais du coup, ça se passe comment ? Vous travaillez avec des traducteurs ou vous avez vraiment des gens d'autres pays qui travaillent avec vous
Oui, donc on a la chance d'avoir Vanessa qui parle arabe.
Et ça, il n'y a pas que des gens qui parlent arabe, il y a des
tout à fait, mais pour les langues, pour les langues auxquelles on n'a pas accès dans l'équipe, on fait recours au CETIS, on fait surtout des traductions via le téléphone, parce que c'est vraiment compliqué de faire entrer un traducteur en prison.
Et pourquoi pas par visio, vu qu'ils ont...
On n'a pas accès à ça.
Par téléphone, ça doit vraiment être chaud. Quoi. Déjà,
on ne peut pas rentrer qu'un téléphone dans la prison.
Ouais. Donc on utilise le téléphone fixe.
On va demander à certains détenus un téléphone, quoi, c'est tout ça.
Oui, déjà il faut savoir ça, qu'en fait quand on rentre parfois un tiers de notre temps, parfois c'est des attentes, on attend, parfois il n'y a pas de bureau, parfois c'est le préio, et on n'a pas accès à notre téléphone, ordinateur à l'intérieur, donc pour travailler, donc on attend en fait, et oui.
Voilà. Et des fois, vous êtes pas...
À mon avis, un tiers du temps, t'es optimiste. Hein. C'est que tu veux pas trop les casser, parce que moi, je connais la réalité. Et des fois, t'as des travailleurs sociaux qui viennent et qui savent même pas te rencontrer. Qui retournent... Enfin, moi, je voyais Capiti, enfin, je joue dans Capiti. Et des fois, ils attendent une heure et demie, et puis ils te voient même pas, quoi. Ils disent pas au travailleur social que t'es à la visite, que t'es ailleurs. Enfin, ils font... La communication se fait pas, quoi. C'est très compliqué, quoi.
Et ça vous démoralise pas de pas pouvoir faire votre travail comme il faut parce que vous êtes bloqué par ou les politiques ou vraiment la situation,
la réalité du terrain, quoi.
C'est ça. Oui, c'est la réalité du terrain et je pense qu'on fait ce qu'on peut et voilà,
c'est mieux que rien en plus.
Oui, c'est ça. Et le fait de trouver de pouvoir faire quelque chose nous donne plus d'espoir et pour continuer, et voilà, on est tous très intéressés.
Vu que du coup, c'est en première ligne, ils vous en veulent à vous après, ou ils comprennent vraiment que c'est pas de votre faute
Les détenus en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai jamais eu de problème. Ça a toujours été très positif pour moi, donc pour tous mes suivis, voilà.
Ouais, c'est une position qu'il faut vraiment travailler parce qu'on est dans une position intermédiaire entre la personne détenue, donc il ne faut pas prendre totalement la part de la personne détenue parce que ça ne rend pas service à la personne, ni totalement la part de l'institution parce que quand même il y a certains droits qui ne sont pas respectés et ça il faut le dire.
Donc vous préparez aussi la sortie des prisonniers et comment vous pouvez savoir que c'est vraiment... tenue en fait, ouais. Je sais pas comment le dire.
Vous mettez les projets de réinsertion en place par rapport aux prisonniers ?
Non mais il y a pas de réinsertion en Belgique maintenant, il faut arrêter.
Moi j'ai eu un boulot où
presque pas quoi.
Voir des détenus en fin de peine en mettant en place un projet de réinsertion genre une mise au logement, une formation, un boulot, un truc du genre.
Mais il faut dire qu'il y a une différence énorme entre les personnes qui ont des papiers et des personnes qui sont sans papiers. Donc effectivement, une personne qui a des papiers, il y a moyen de mettre en place des choses. Maintenant, c'est limité, on le sait très bien, mais il y a des services, des ASBL, des services externes qui s'occupent de ça au niveau de la formation, au niveau de l'insertion au travail, au niveau de l'accompagnement social et administratif. Maintenant, quand la personne n'a pas de papier, tout ça devient très complexe. Mmh.
C'est ce qui différencie nos deux projets, donc entre Humani et Drugs Lab. Et à Humani, voilà, on essaye le plus souvent, je sais pas, d'orienter pour peut-être essayer d'avoir des papiers. Donc,
ouais. Ce qui est très compliqué, parce que la personne qui passe par la case prison et qui n'a pas de papier... voilà.
On le remet dans la rue, quoi.
Ouais. Les chances sont très.
C'est aberrant, quoi.
Très faibles qu'il puisse avoir accès
après,
à.
Après, je peux comprendre qu'il pense c'est mieux de rentrer, quoi.
C'est paradoxal, mais c'est tout à fait une réalité de terrain.
Ouais.
Stéphane, tu voulais dire encore un truc ?
Non, pas du tout. J'ai plusieurs trucs. Non, mais au niveau de la réinsertion, il n'y en a pas vraiment, quoi. Ce qu'ils veulent surtout, par exemple, pour le TAP, pour tout ce qui est conditionnel, c'est être couvert. Ça, c'est surtout depuis l'affaire du trou et tout ce qui s'est passé à l'époque, quoi. Donc, ils veulent pouvoir dire, hein, on a fait ce qu'il fallait pour le détenu. Je sais pas, il y a un petit problème électrique.
Non, continue. Okay. Non, c'est quelqu'un qui téléphone.
Ah, ok. Ah, c'est ça, ok. Je pensais que c'est moi qui parlais pas bien dans le micro.
Non, non, okay.
Ok. Donc, il n'y a pas réellement de réinsertion. Enfin, moi, ils veulent plus se couvrir. Ça, c'est la réalité, quoi. Ils en mettent un petit peu en place, mais pas réellement, quoi. Et puis, ça dépend des peines, parce qu'il y a les peines jusqu'à 3 ans. Là, on peut sortir. Les gars, ils sortent automatiquement un tiers de leur peine. Et là, ils n'ont pas besoin d'avoir de réinsertion du tout, quoi. Ils doivent juste avoir un endroit où se poser au moins quand ils débarquent, mais ça doit pas, ils doivent même pas être.
Justement, il y a des détenus qui sont libérés en conditionnel. Enfin.
Là, ils sont un peu, ils sont un peu plus derrière, mais oui, il y en a qui sont libérés en conditionnel, oui. Mais il y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui vont en fond de peine.
Je crois que Lola veut nous dire quelque chose.
Oui, on a eu un auditeur qui nous a téléphoné par rapport à une question. Il se demandait si les personnes sans papier étaient en prison parce qu'elles étaient sans papier ou parce qu'elles avaient commis des faits. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question ?
C'est une très très bonne question.
Excellente question.
Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont sans papier, qui n'ont pas une adresse, ne peuvent pas être mis sous bracelet électronique, par exemple. Donc, effectivement, il y a des faits qui sont commis, mais ils sont mis en détention préventive pour le fait de ne pas être sans papier, d'une certaine façon. S'ils avaient une adresse, ils seraient avec le bracelet à leur adresse. Maintenant, il y a aussi une peine qui est mise en plus pour le fait d'être sans papier, d'être irrégulé sur le territoire. Mais c'est à la suite de faits qui sont commis.
Et du coup, souvent lié à la drogue, en fait.
Oui.
Lié à la conso, à la possession, lié au trafic de drogue.
Donc, on tourne tout doucement vers la fin.
C'est très vite fait.
On va devoir vous laisser. Merci, Vanessa, Mélodie, Stéphane. Mm-hmm. Merci de votre venue, c'était franchement cool. Oui. Mais je crois qu'on a encore. Ah, toi aussi, Mélissa. Mais je crois qu'on a encore plein de choses à dire. Et comme d'habitude, on n'a pas assez de temps.
Aïcher, vous avez un site web.
Oui, tout à fait.
Vous contacter.
Tout à fait. Nous contacter. Si vous avez aussi des personnes qui pourraient bénéficier de notre service, n'hésitez pas.
Ça va.
On vous remercie.
On vous remercie. Merci. Vous avez on a encore un petit temps, un coup de gueule. Vous voulez faire un coup de gueule, là, vraiment.
Pour les non-francophones, qu'est-ce que c'est ?
Quelque chose qui vous déplaît absolument et que vous voulez mettre en avant, qui devrait changer.
Genre décriminaliser la drogue, quoi.
Oui, voilà.
Ben ça, c'est son avis, mais bon, le vôtre.
Mais je pense qu'il faut vraiment déjà arrêter de penser qu'il n'y a pas de consommation de drogue en prison.
Ça, c'est bien.
C'est un fait.
Personnellement, moi, j'ai commencé en prison.
Voilà, donc il ne faut pas se voiler la face, parce qu'autrement, on met rien en place pour aider les personnes.
Allez, ça, Tara.
J'ai pas vraiment d'idée pour le moment.
J'ai pris des
problèmes. En tout cas, merci.
Tu as fait un coup de gueule, lui.
Mais qui regarde un peu, je vais revenir avec ça, ce qui se passe dans les pays scandinaves, quoi. Qui regarde un peu ce qui se passe dans les pays scandinaves, pourquoi ils ont moins de récidives que chez nous, quoi.
Ben voilà, avec ça, on s'arrête. À la prochaine, tout le monde. Mélissa.
Peut-être avait dit quelque chose.
Oui, moi, ça décriminalisons la drogue, hein. Un tiers des détenus qui ne sera plus en prison. Voilà.
Donc la prochaine fois, ce sera les morts de la rue et à bientôt.
Deuxième mardi du mois, 19h.
Clip Radio. Just what is it that you want to do? We want to be free. Do what we want to do. Sur Radio Panique. And we want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time.